La mode, c'est permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées. C'est très difficile.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. La mode raconte-t-elle l'histoire du XXe siècle? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien de la mode Olivier Saillard. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, les années 80-90. Les années 80, les années frimes, les années frics, celles des youpies triomphants, mais aussi des superwomen, cheveux courts, sanglés dans des tailleurs aux épaules démesurées et juchés sur des talons hauts. Si ces années 80 sont des années frics, l'idée n'est pas d'épargner en silence et avec discrétion, non, mais de dépenser, de briller, de s'amuser et surtout de se montrer. Fini l'austérité des années 70, hippie ou baba, l'unisexe, qui privilégiait la simplicité et le confort. Le corps qui avait disparu sous des grands pulls difformes, ressurgit, désormais sculpté jusqu'à l'épuisement grâce aux vidéos gym tonique de Jane Fonda. Féministe toujours, mais différemment, les femmes des années 80 se veulent puissantes, élégantes, sophistiquées et sans complexe. Vive le look.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le look, le total look même, que l'on croyait avoir relégué aux oubliettes depuis le new look et la femme fleur de Dior dans les années 50. Il revient en force dans les années 80. Tailleur, taille marquée, chaussures pointues, jupes étroites, chapeaux, voilettes, bijoux gadgets, fluo ou énormes, maquillage outrancier, eyeliner et rouge à lèvres. Et c'est le grand retour de la lingerie des grands-mères. Les soutiens-gorge sexy, les collants et les bas à dentelle et même les porte-jartelles. Mais tous ces accessoires, souvent inconfortables, il faut bien le dire, qui semblent sortis tout droit d'un sex shop, ne servent plus seulement à séduire les hommes. Les femmes des années 80 s'affirment dans leur indépendance, leur réussite professionnelle. Elles aiment se plaire à elles-mêmes et se raconter des histoires, ressembler à des actrices de cinéma. Lorraine Bacall et sa mystérieuse raie sur le côté, Marilyn Monroe dont on copie les robes moulantes, ou Brigitte Bardot, les chignons choucroute. Les chefs d'orchestre des défilés spectacles des années 80, qui font la fête jusqu'au bout de la nuit, au bain-douche ou au palace, sont des petits nouveaux qui en veulent. Ils s'appellent Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Azedine Alaïa, des Japonais aussi, Issei Miyake et Yoji Yamamoto, quelques femmes aussi, Chantal Thomas, Elisabeth de Senneville et Vivienne Westwood. Tous ces nouveaux talents des années 80, qu'on appelle des créateurs, ont-ils mis fin pour toujours à la haute couture?
Provocation, les femmes, elles sont provocantes, donc c'est nécessaire qu'il y ait un peu de provocation dans le vêtement. Les hommes aiment ça aussi. Alors j'utilise tous les moyens pour qu'une femme soit à son meilleur et toujours à l'attaque. Oui, même mourante, elle doit être toujours bien. Alors j'ai essayé vraiment de pousser les femmes dans une direction que c'est. Je trouve qu'il faut être conscient que quand on a un corps qui est bien, quand on est jeune, il faut le montrer.
Azedine Alaïa, surnommé le roi du moulon, interviewé ici en 2000, vous l'avez bien connu, Olivier Saillard.
Oui, tout à fait. Longtemps.
Comment qualifierez-vous ces années 80? Pour Azedine Alaïa, il dit « la femme doit toujours être au top, même quand elle est mourante
». Je trouve que les années 80, c'est une décennie, c'est comme le dernier chant du cygne. C'est une décennie très très particulière parce que l'on voit à l'intérieur de 10 années des écoles stylistiques très très différentes et très opposées. Il y a des créateurs français, en effet, comme Mugler, Alaïa, Jean-Paul Gaultier, des créateurs anglais comme Vivienne Westwood, John Galliano, les Japonais. Il y a vraiment différentes écoles qui se parlent, qui se rencontrent, qui s'apprécient et qui ont des univers très très cernés. Et c'est vraiment ce que j'ai toujours appelé un peu la décennie nouvelle vague pour la mode, puisque celui qui avait envie de s'exprimer, de convenir d'une mode qui n'était pas toujours très portable, mais la rue avait l'appétit de ça, de l'importable, de la différenciation, c'est de la décennie qui a permis en effet la valorisation des auteurs plus que de l'industrie.
Il y a un culte de la mode, vous le dites, une folie vestimentaire dans ces années 80, dont le grand prédicateur était Thierry Mugler. Vous racontez dans votre livre des défilés mythiques qui ont été organisés à l'époque, par exemple celui donc de Mugler en 84 au Zénith, pavillon Baltard pour Gautier l'année suivante. Vous y étiez ? C'était vraiment fou ?
Non, j'étais pas encore à Paris pour Zénith. Pour Gautier, oui, j'en ai vu pas mal lorsque je suis arrivé à Paris. C'était beaucoup à la Villette. Ce que l'on sentait à travers ces créateurs-là, c'était une forme en effet de mode qui était largement sortie de ces salons de haute couture. La haute couture n'intéressait pas les jeunes générations. Jean-Paul Gautier apparaissait comme une sorte de Marcel Duchamp ou de Picabia de sa génération. Il mélangeait les styles, on voyait un défilé de lui, on remontait ses manches, on avait l'impression d'être... Il y avait au-delà de la mode une dégaine, une manière, un mouvement, un geste. Il est le couturier de gestes aussi, ça c'est beaucoup plus abstrait, mais il a vraiment introduit... Il est un grand couturier de son époque, en ce sens qu'il a formé aussi après lui des générations de jeunes créateurs que l'on voit aujourd'hui encore en poste. C'est une décennie qui allait au-delà de la forme vestimentaire. C'était plutôt une philosophie de vêtements à des prix qui n'étaient pas toujours accessibles, non, mais qui se laissaient copier abondamment.
Et vous parlez aussi des stylistes japonais. Vous dites qu'il s'agit d'un véritable tremblement de terre quand ils arrivent, parce qu'ils apportent quelque chose de complètement nouveau.
Les stylistes japonais, à savoir Issey Miyake, qui est vraiment un des plus grands couturiers, je pense que c'est celui aussi qui, en termes d'invention démocratique et sociale, est le dernier à avoir osé une proposition avec les plis-plis, qui sont des vêtements plissés, très légers, que l'on peut laver dans un lavabo, sécher en deux minutes. Et c'était une volonté de sa part de répondre non pas par une solution de mode, mais par une solution vestimentaire. Mais après, Issey Miyake, viennent Yoji Yamamoto ou Rei Kawakubo, qui sont vraiment les papes du paupérisme, comme on le dit.
C'est l'arrivée du noir aussi, cette
couleur.
C'est
l'arrivée du noir, c'est l'arrivée des trous, c'est l'arrivée du déstructuré. Oui. Et vraiment, il y a des articles très cinglants qui disent que ce péril jaune ne doit pas préempter la mode à cette époque.
C'est vrai.
Oui. Et c'est quelque chose qui fait phénomène et... Pendant deux ans, on ne parle que de ce danger, de cette ombre. Il y a une version beaucoup plus fin de siècle que la fin du siècle ne sera. Et néanmoins, on voit s'affirmer une forme de sensualité, d'éducation vestimentaire, notamment avec Yoji Yamamoto, qui, tout en étant très misérabiliste dans sa proposition, s'est poétisé, presque comme une photo de l'Artigue, les corps féminins.
Dans les années 80, il y a un certain Karl Lagerfeld qui arrive aussi et qui prend la maison Chanel. Il fait sensation avec sa collection en 1983. C'est le renouveau de la haute couture qui va s'affirmer dans les années 90 aussi.
Oui, le renouveau de la haute couture commence dans les années 83, je dirais, avec Karl Lagerfeld qui arrive chez Chanel. C'était pas gagné, tout le monde voyait ça d'un œil un peu obscur. C'est une maison un peu moribonde. Lui-même ne s'est jamais caché que beaucoup avaient tenté de le dissuader. Et puis, on voyait arriver aussi chez Jean Patou Christian Lacroix, qui donnait un peu de soleil dans une industrie qui n'en avait plus, qui ensuite a fondé sa maison en 87. C'était la province à Paris, et tout à coup, c'était vraiment un grand sourire. Donc la haute couture est redevenue un domaine fréquentable. Claude Montana, qui était passé chez Jeanne Lanvin aussi, avait donné, dans des vêtements très architecturés, une leçon de modernité. Et on va voir avec, en effet, Karl Lagerfeld que d'un nom qui était éteint, qui était un petit peu donneur de leçons, il va faire une théorie du commerce qui est celle sur laquelle on vit.
Oui, vous dites que c'est la fin du règne des créateurs et des stylistes, hein, les années 90, des gens qui avaient un nom, un visage, et arrive le règne des grandes marques, hein, c'est Dior, Gucci, Prada, ça change complètement économiquement.
Oui, il y a un monde, alors on doit sans doute s'en réjouir, le monde du luxe est particulièrement français prédominant et possède beaucoup de marques, mais il y a une forme de recette du luxe qui fait débat d'ailleurs actuellement, où l'on a priorisé la notoriété des marques par rapport à la valorisation des auteurs. Et je maintiens que les auteurs sont toujours puissants lorsqu'il faut raconter une histoire.
Oh, j'ai commencé cette émission en posant une question. La mode raconte-t-elle l'histoire du XXe siècle? Qu'est-ce qu'elle nous raconte de la fin du XXe siècle, justement?
La mode raconte le XXe siècle et l'inverse aussi. Au XXIe siècle, je pense que la mode est moins à même de raconter son époque parce qu'il y a une forme d'indifférenciation, c'est-à-dire un grand succès des modes et pour autant, on n'a jamais eu autant de facilité à apprécier des looks différents. Enfin, plus jamais on ne serait choqué d'une personne qui a les cheveux rouges, tatoués, des piercings, qu'elle soit dans n'importe quelle représentation sociale, professionnelle. Aujourd'hui, je pense que vraiment, l'apparence ne passe plus par un jugement. La mode telle qu'on l'apprécie, c'est celle qui s'invente dans la rue réellement avec des jeunes femmes qui vont dans les garde-robes de leur famille ou dans les vintage
ou aux
puces et c'est toujours de là que les couturiers ressortent des idées avant l'heure.
Merci beaucoup Olivier Saillard, je conseille vivement la lecture de votre livre qui est vraiment passionnant et très bien écrit, très documenté, Une histoire de la mode paru dans la collection Les Singuliers chez Bouquin. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin. À la technique, Philippe Duclos et Élise Christophe. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends comme toujours vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.